Donc Camille Fauchon, je suis doctorant en dernière année de neurosciences au sein du laboratoire d'intégration centrale de la douleur chez l'homme, donc NeuroPain, sous la direction du docteur Roland Perron. Alors on a bien vu les voies de la douleur, même un peu plus, et maintenant cette présentation va tenter d'aborder ces modulations et quelques notions d'empathie qui ont déjà été bien décrites, donc on passera vite là-dessus. Et donc je vais vous présenter des travaux qui sont tirés principalement d'études qui ont été menées en imagerie. Donc pour investiguer les fonctions cérébrales, comme vous le savez, on a différentes stratégies. On peut utiliser l'électroencéphalographie, on peut également utiliser les techniques d'imagerie médicale, donc l'IRM fonctionnel ou encore les TEP scans. Donc au bout d'un certain nombre d'années, on est arrivé à quelque chose d'assez concordant, un consensus en montrant que la voie d'entrée dans le système de la nociception se trouvait au niveau du cortex operculo-insulaire. Et donc c'est cette étude récente de Segerdahl en 2016, parue dans Nature Neuroscience, qui confirme un petit peu cette idée. Alors qu'est-ce qu'ont fait les auteurs? Ils ont isolé l'activité au niveau de l'insula postérieure et l'ont mis en relation avec le ressenti douloureux des sujets. Alors le ressenti douloureux des sujets, il est évalué classiquement, comme vous le savez, en clinique avec du 9VA, une échelle visuelle analogique. Et ce qu'on voit, c'est que l'activité au niveau de l'insula postérieure va être corrélée directement avec le ressenti douloureux des sujets. Donc la région operculo-insulaire est déterminante dans l'expérience douloureuse. Mais comme j'espère vous l'avez compris, c'est l'activité de cette seule région n'est pas suffisante pour arriver à une douleur consciente, ou si je puis dire, on va avoir toutes les facettes de l'expérience douloureuse. Car cette la douleur, elle est sensorielle, mais elle va être aussi émotionnelle, cognitive, mnésique, et toutes ces autres fonctions vont être soutenues par d'autres réseaux, d'autres régions, et c'est ce qu'on voit en IRM lorsqu'on fait mal, lorsqu'on délivre une stimulation nociceptive, on va avoir de nombreuses activités qui sont représentées ici en jaune, alors au niveau de notre insula postérieure, mais aussi dans la partie antérieure de l'insula, on va avoir également des activités au niveau du thalamus, au niveau de la partie médiane du cortex cingulaire, au niveau des aires motrices, avec le cervelet, on va aussi avoir des modulations d'activité dans d'autres régions. On ne va pas qu'augmenter l'activité des régions, on va aussi diminuer certaines activités, des activités frontales au niveau du cortex préfrontal ventromédian, vous avez ici, des activités également au niveau postérieur et dans bien d'autres régions. Et l'activité conjointe de l'ensemble de ces régions, de façon plus ou moins concomitante, va permettre de générer l'expérience douloureuse. Et comme disait le professeur Luis García Larrea, c'est ce qu'on appelle communément l'activité de cet ensemble de régions, la matrice douleur. Donc maintenant qu'on a vu la voie d'entrée, le câblage du système douloureux, on va maintenant aborder ces modulations. Donc on a effectivement un premier réseau nociceptif, plutôt sensoriel, avec les réponses qui découlent de ce réseau, donc les réactions motrices, donc comme la réaction de fuite qui sont inhérentes à la douleur, les réactions de retrait, les réactions mnésiques qui vont nous permettre de comparer un stimulus douloureux à un autre, et les réactions végétatives qui sont principalement des réactions sympathiques, donc qui vont changer l'activité de notre corps pour répondre à cette douleur. Et donc cette douleur et l'ensemble de ces réponses vont pouvoir être modifiées par différents facteurs que l'on peut classer un petit peu façon simpliste en deux catégories, des facteurs internes et des facteurs externes. Alors les facteurs internes, c'est typiquement l'état cognitif du sujet, son état attentionnel, s'il est distrait, s'il s'habitue à la stimulation. Ou encore, on peut utiliser des outils cognitifs pour moduler notre douleur, c'est le cas de l'hypnose que vous connaissez bien, ou encore de la méditation. L'état émotionnel de l'individu va également conditionner sa perception douloureuse. Si je suis en empathie avec quelqu'un, ou alors si j'ai de l'anxiété, si je suis dépressif, je ne vais pas ressentir la douleur de la même façon. D'un autre côté, on aura aussi des facteurs externes. Le contexte dans lequel on se trouve va influencer notre douleur, et principalement également les autres, les facteurs sociaux. Si vous êtes empathique avec moi, si vous me soutenez, est-ce que cela permet d'influencer ma douleur? C'est ce qu'on verra par la suite. Et donc on va, au cours de cette présentation, donner des exemples en IRM de ces facteurs, et on va commencer par les facteurs internes, les états cognitifs qui peuvent changer notre perception douloureuse. Donc deux états opposés pour commencer, l'attention et la distraction. Donc vous le savez, quand on est distrait, on a moins mal. Ce qui est assez logique. Alors en IRM, qu'est-ce que cela va induire? Donc on a utilisé ici, donc c'est une étude de Valette en 2004, où il y a un peu le même plan factoriel qui a été utilisé que dans l'étude présentée par le professeur Luis García Larrea. Donc on va avoir une situation où on aura de la douleur, une autre où on n'en aura pas, et deux conditions, une condition avec de l'attention et une condition avec de la distraction, où on demande au sujet de réaliser une tâche dans l'IRM. Lorsque l'on regarde en situation, si je puis dire, normale, lorsqu'on a simplement de la douleur, les sujets ont mal, leur EVA est haute, et on va activer les aires de la matrice douleur de façon classique. Lorsque je diminue ma douleur par une tâche distractive, lorsque je réduis mon EVA, de façon concomitante, je réduis les activités au niveau de la matrice douleur. Lorsque l'on essaye d'isoler uniquement l'effet dû au distracteur, l'effet distractif, donc en faisant en IRM ce contraste assez simple, distraction versus sans distraction, on retrouve une activité qui va se situer au niveau du cortex orbitofrontal et dans la partie rostrale du cortex cingulaire antérieur. Et on sait que cette activité va induire des modulations de la douleur. Les auteurs montrent aussi une activation au niveau du précuneus qui est assez importante. Alors, ils ne l'ont pas considéré dans l'article à l'époque, s'ils ne connaissaient pas bien le rôle de cette région dans la douleur. Mais nous, on aura l'occasion d'en reparler au cours de la présentation, donc gardez-le à l'esprit. Derrière, on voit que l'activité au niveau du cortex orbitofrontal va covarier avec l'activité de deux régions, celle du thalamus et de la substance grise périabducale. Et on sait que cet axe de région va intervenir dans l'activation, dans les voies descendantes de contrôle de la douleur. Alors une autre étude, que j'espère vous connaissez vu qu'elle a été présentée juste avant, celle de Perron en 99, où ici on a dissocié les activités de présentation d'un stimulus. D'une part, on a montré les activités qui sont liées à la partie discriminative du stimulus, l'identification du stimulus, et on voit bien que ces activités sont limitées au cortex insulaire, c'est ce qui a été appelé la matrice de premier ordre, la matrice nociceptive, tandis que les autres activités sont liées plutôt à l'attention, c'est la plupart des activités, elles regroupent une beaucoup plus grande partie de la matrice douleur. Et les informations complémentaires qu'on peut apporter, c'est lorsque l'on regarde au niveau de notre cortex cingulaire antérieur. Ici en vert, vous avez les activités liées à la douleur et en bleu, les activités liées à l'attention. On voit que ces deux activités sont conjointes, se juxtaposent, elles sont adjacentes. Et c'est un petit peu normal parce que ces deux activités de fonction qui sont assez contiguës, plus j'ai mal, plus je fais attention, donc les deux augmentent de la même manière. Et ces résultats-là ont été répliqués, notamment dans une étude de Davis, où on voit ici que l'attention, donc là qui a été générée par une tâche de Stroop, hein, que vous connaissez, va se trouver au niveau de l'aire 32 de Brönnemann, donc un petit peu plus antérieure, tandis que la douleur, elle est plus postérieure dans le singulaire, elle va correspondre à l'aire 24. Et cette aire 24, elle est appliquée dans les phénomènes attentionnels, mais également, elle va soutenir le processus moteur de fuite, la réaction d'alerte. Autre élément qui peut moduler ma douleur, l'habituation. Alors si je répète un stimulus plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours, le même stimulus va paraître de moins en moins douloureux. Je vais diminuer ma perception douloureuse, je vais diminuer mon EVA. On va également être de plus en plus endurant à ce stimulus. Donc mon seuil douloureux pour induire une douleur, la température pour provoquer de la douleur va être de plus en plus haute. Alors au niveau de l'imagerie, qu'est-ce que cela provoque? Et bien, au cours du temps, je vais avoir une diminution des activités au niveau de ma matrice douleur. Ce qui est assez logique, j'ai de moins en moins mal. Par contre, on va avoir une augmentation d'activité au niveau du cortex cingulaire antérieur, dans sa partie périgénuale, c'est la région que j'ai entourée en rouge ici. Et c'est cette activité qui va soutenir l'analgésie à l'habituation. Donc j'active des voies de contrôle descendantes de ma douleur et donc je réduis ma perception par le biais de cette activité. Autre outil cognitif que vous connaissez bien, car il est de plus en plus utilisé en clinique pour parer à la douleur, c'est l'hypnose. Donc on peut l'utiliser en dentisterie, en pédiatrie, par exemple pour les vaccins ou les soins courants, lors de petites chirurgies, ou encore chez les douloureux chroniques. Donc en fonction de l'âge de l'enfant, on va plutôt utiliser des techniques distractives. Et à partir de l'adolescent, chez la personne adulte, on va pouvoir utiliser réellement des suggestions hypnotiques. On ne va pas rentrer dans le détail, mais elles vont être basées sur deux aspects. Tout d'abord, la relaxation physique. Donc, plus je suis relaxé, moins je ressens de douleur. Et également, alterner l'état de conscience de l'individu pour changer son attention de cible, pour la détourner. Donc, on peut se poser la question, même si je vais me faire huer, est-ce que l'hypnose n'est qu'une distraction? Je laisse ouvert. Donc il y a une équipe québécoise, celle de Pierre Inville, qui a beaucoup utilisé les suggestions hypnotiques. Et je vais vous présenter deux études que j'aime bien, ce qu'ils ont utilisé d'une manière assez intelligente pour changer différents aspects de la douleur. Donc, la douleur, c'est sensoriel, mais c'est aussi affectif, c'est aussi émotionnel. Et donc ils ont voulu utiliser les suggestions hypnotiques pour changer spécifiquement un seul aspect de la douleur. Donc ils ont utilisé des dialogues subjectifs axés sur, d'une part, la sensorialité, donc des textes où je vais parler de la thermode, de la température, de la cotation, pour moduler uniquement l'aspect sensoriel de la douleur. Ou à l'inverse, j'utilise des suggestions qui vont être axées sur les émotions plaisantes ou déplaisantes, pour uniquement changer cet aspect. Et ce qu'on voit en IRM, alors déjà en comportemental ça marche, hein, ils l'ont validé, et en IRM, lorsque je donne des suggestions uniquement à visée sensorielle, je modifie des activités uniquement dans des aires sensorielles au niveau de l'insula postérieure et du cortex somatosensoriel primaire. Lorsque je donne des suggestions à visée affective, je module mon cortex singulaire antérieur que l'on sait également impliqué dans ces processus. Donc déjà, c'est une validation de la suggestion hypnotique pour moduler la douleur dans ces différents aspects. Lorsque je fais une suggestion hypnotique à visée antalgique, parce que c'est ce qui nous intéresse, quelle région j'active? Eh bien, j'active mon cortex singulaire antérieur, mon cortex préfrontal et également la substance dyspareille buccale. Encore les mêmes régions que l'on sait impliquées dans les contrôles descendants inhibiteurs de la douleur, qui sont représentées ici sur ce schéma. Et donc, ça va être réellement des zones pivots pour contrôler notre douleur. Autre élément, la méditation qu'on a abordé rapidement. Alors, il y a différents types de méditation. Je ne suis pas spécialiste, mais celle que j'ai voulu vous présenter, c'est la méditation pleine conscience, appelée mindfulness en anglais. Pour vous donner une définition qui va être assez vague, c'est vraiment parce que ce n'est pas mon domaine, mais la méditation pleine conscience, c'est être centré sur le moment présent. Donc ne pas porter son attention sur un objet en particulier, la porter de façon globale, être présent dans le moment. Alors déjà, est-ce que la méditation, ça permet effectivement de modifier notre douleur? Première question. Donc Zeidan, en 2011, ont testé ces hypothèses en comparant l'effet de la méditation à une condition de repos et une condition où l'attention était ciblée sur la respiration. Et ils s'aperçoivent que seule la condition de méditation représentée ici est à même de moduler significativement la douleur dans son aspect sensoriel ou émotionnel. Au niveau de l'activité cérébrale, cela va correspondre pour la part sensorielle à des augmentations d'activité au niveau du cortex singulaire antérieur et dans la partie antérieure de l'insula, ce qui est assez logique puisque ces deux régions sont impliquées dans des modulations cognitives du signal nociceptif. Au niveau de la partie affective, cette fois je réactive encore mon fameux cortex orbitofrontal. Donc là vous l'avez compris, c'est lui qui va venir moduler la douleur. Et de même, de pair, j'ai une diminution d'activité au niveau du thalamus, qui est un peu le point relais pour la nociception. Donc ce qui valide la méditation. Donc là on a vu une liste non exhaustive de facteurs internes, cognitifs, qui vont moduler notre douleur. Mais je vous l'ai dit, la douleur, elle peut être modulée par le contexte. Et pour commencer, on va parler de placebo, bien évidemment. Alors un placebo, qu'est-ce que c'est? C'est tout l'environnement global, tout le rituel qui va accompagner un acte thérapeutique. C'est tout ce contexte qui va permettre de donner un effet bénéfique à un traitement qui à la base était inerte. Donc ce qui est important de considérer, ce sont les instructions verbales qui vont être données par le personnel soignant, très important. Ce que je vais vous donner va vous faire du bien, va vous apporter un bénéfice. Et tous les petits signes qui vont accompagner cette mise en place, un petit peu toute la mise en scène. Les attentes du patient également, où on a déjà une première association, je sais que ce médicament va me faire du bien, un premier conditionnement. Et c'est cet ensemble de facteurs qui va nous donner un effet bénéfique, un effet placebo. Un contexte inverse entraîne une augmentation de douleur, c'est ce qu'on appelle le nocebo. Alors Wager, en 2015, dans une revue, a proposé une synthèse des activations liées à une analgésie provoquée par placebo. En bleu, vous avez les diminutions d'activité, donc qui vont correspondre à notre matrice douleur, et en rouge, les augmentations d'activité. Et on voit, ici de façon unitaire, ici de façon globale, que les augmentations d'activité vont être principalement au niveau, encore une fois, de notre cortex préfrontal, ventromédian, avec des activations qui vont augmenter également dans des structures limbiques et dans la substance expiriale buccale. Donc j'active mon système inhibiteur descendant de contrôle de la douleur. Alors l'analgésie par placebo, vous savez qu'elle passe par les opioïdes, par l'activation du système opioïdergique. On peut l'imager également grâce à un PET ligand qui va se fixer sur les récepteurs opioïdergiques. C'est ce qui a été fait par Zubieta ici. Et on voit qu'une analgésie provoquée par placebo va passer par l'activation du système opioïdergique et par l'activation de notre singulaire antérieur. Si on revient à la revue de Wager, il propose un zoom sur les circuits ascendants et descendants de contrôle de la douleur. On voit que l'activation du préfrontal ventromédian va correspondre à l'intégration du contexte placebo et que son activation va derrière activer des structures limbiques et également il a des projections directes sur la substance grise spirale buccale qui va interagir avec le signal nociceptif pour le filtrer et donc le réduire. Alors le personnel soignant, lui, outre l'effet placebo, il a également son comportement pour modifier la douleur des patients. Ah, juste avant, je voulais vous montrer un autre exemple où on peut également activer notre cortex singulaire antérieur. Une petite parenthèse. Lorsque l'on cherche à diminuer la douleur chez nos patients, on peut utiliser une technique de stimulation du cortex moteur, donc avec des électrodes apposées sur le cortex moteur. Et l'analgésie va correspondre à une activation, toujours dans le même endroit, du singulaire rostral. Donc qui corrobore encore l'idée que la modulation de la douleur, ça se passe essentiellement à cet endroit. Donc revenons maintenant à ce que je vous disais. Outre l'effet placebo, le personnel soignant, par son attitude, va pouvoir modifier la douleur de ses patients. Alors il a intuitivement admis en clinique, et là je suis sûr que personne ne va me contredire, que le comportement du personnel soignant, et de vous, va modifier la douleur des patients. Et on admet, de manière aussi intuitive, qu'un comportement empathique, d'écoute, de soutien, permettrait de réduire la douleur. Et qu'à l'inverse, lorsqu'on a un comportement négatif, une totale absence d'écoute, une indifférence, là on a plutôt une exacerbation de la douleur. Donc c'est les hypothèses qu'on a discutées dans l'équipe, notamment avec Anne-Marie Perrin, qui est neuropsychologue avec nous. Et on a eu l'idée de reproduire ce contexte de façon expérimentale pour le tester, pour l'invalider ou le valider. Donc ce qu'on a fait, on a demandé à des acteurs, des professionnels, on a construit des dialogues pour représenter un contexte empathique, donc des commentaires empathiques directement ciblés sur le sujet, donc en donnant une compréhension de sa douleur, en le soutenant. Ou à l'inverse, on a créé un jeu de dialogue qui mimait une situation où les expérimentateurs, le personnel soignant, étaient totalement non empathiques, même désagréables, totalement indifférents à la douleur du sujet qu'ils étaient en train de souffrir. Donc on a testé ces hypothèses, on les a testées de façon comportementale Et ensuite, on a mis des gens dans un IRM, on leur a fait mal et on leur a diffusé ces dialogues. C'est un peu barbare, hein, mais... Donc déjà, est-ce que l'empathie d'autrui peut moduler ma douleur? Est-ce qu'un comportement empathique le peut? Oui. C'est ce qu'on a obtenu comme résultat. Un contexte empathique, des commentaires empathiques, diminue significativement la douleur de nos sujets d'environ 12% en comparaison à un contexte neutre. C'est ce qui va correspondre à des activités au niveau de l'insula antérieure, également des activités au niveau frontal. Le contexte non empathique, quant à lui, on pensait qu'il allait augmenter la douleur, parce qu'on a obtenu, on n'a pas de différence de perception douloureuse entre un contexte neutre et un contexte négatif. Par contre, on a quand même des activations cérébrales, on retrouve une activité au niveau de l'insula antérieure, et on retrouve des déactivations au niveau de ce qu'on appelle le default mode network, qui est composé principalement de deux structures qui vont nous intéresser ici, le précuneus et notre cortex orbitofrontal. Lorsque l'on compare nos deux contextes d'intérêt, ceux qui ont la plus forte valence, ceux qui sont opposés, une seule région va corréler avec cette valence, c'est l'activité au niveau du précuneus adjacente au cortex singulaire postérieur. Donc elle va un petit peu coder la magnitude du contexte. Ce qu'on a fait pour aller un petit peu plus loin, on a testé la connectivité fonctionnelle de l'ensemble de ces régions que l'on retrouve activées dans notre manipulation expérimentale. Et ce que l'on a vu, c'est qu'on avait une modification de la connectivité fonctionnelle dans la condition empathique par rapport à la condition neutre. On augmentait la connectivité fonctionnelle entre des régions purement douloureuses, l'insula, et notre fameux cortex orbitofrontal. Tandis qu'on diminuait la connectivité fonctionnelle entre ce même cortex orbitofrontal et notre précuneus. Donc ce qui pourrait illustrer une mise en jeu des contrôles descendants, modulateurs de la douleur, dans ce contexte-là. Ça aussi, vous l'avez déjà vu, là on n'est pas dans une situation de douleur, on ne fait pas mal, mais les autres, par leur comportement, peuvent nous induire une certaine souffrance, une souffrance sociale. Donc pour vous redonner cet exemple, c'est lorsqu'on est exclu socialement. Par exemple, vous avez ici une manipulation où il y a un jeu avec trois personnes, vous êtes la troisième personne, dans un cas, vous participez au jeu, dans l'autre, vous êtes totalement exclu. Et plus votre détresse sociale augmente, plus vous activez votre cortex singulaire antérieur et votre insula antérieure. Alors maintenant, on va passer à la partie empathie, bien qu'on vous en ait déjà beaucoup parlé. Du coup, je vais insister sur cette image, comme ça vous comprenez vraiment ce que c'est l'empathie. C'est jamais très agréable de voir ça. Donc c'est l'athlète français au JO de Rio. Vous avez l'image a un petit peu fait le tour du monde. Et l'empathie, c'est cette capacité innée, automatique, à ressentir l'état émotionnel et sensoriel de l'autre. Donc lorsque l'on présente des images à caractère douloureux versus des images sans douleur, on active une partie des aires du réseau de la douleur. Les aires sensorielles, les aires émotionnelles, cognitives, plus que les aires sensorielles. Donc on active le cortex singulaire antérieur, l'insula antérieure. Ça aussi, ça vous a déjà été représenté, je ne reviens pas sur la manipulation, c'est quand notre compagnon souffre, c'est imaginer la douleur d'autrui. On a bien la mise en jeu d'un réseau en commun, mais on a aussi des activations partielles, c'est ce qui a été illustré auparavant. Dans le cas d'une douleur réelle, ici en vert, j'active mon insula postérieure, tandis que lorsque je vois la douleur d'autrui, je n'active seulement que les zones émotionnelles, si je puis dire. Donc, notre réseau secondaire. Ça, c'était une autre étude qui est un petit peu redondante, parce qu'on voit la même chose. On voit la correspondance entre douleur réelle en vert et en rouge, la douleur d'autrui. Ce qui était intéressant, et c'est pour ça que je l'ai rajouté quand j'ai vu qu'on vous parlait beaucoup d'empathie avec mes mêmes diapos, c'est que l'empathie, certes, va avoir un réseau en commun avec la douleur, mais elle va avoir aussi un réseau qui lui est propre. Et ces deux réseaux sont représentés ici, avec des régions de haut niveau, et qui vont être proches des réseaux de la théorie de l'esprit, de la mentalisation, de la prise de perspective de l'état d'autrui. Donc un réseau en commun avec la douleur, mais l'empathie a quand même bien son réseau propre, il faut l'avoir à l'esprit. De la même manière, alors ça nous apporte une information sur le mécanisme de l'empathie. Est-ce que, par quel phénomène passe l'empathie? Donc c'est ce qui a été testé chez des patients avec une insensibilité congénitale à la douleur, donc des patients qui génétiquement ne sont incapables de ressentir de la douleur. Ils n'ont jamais fait l'expérience eux-mêmes de la douleur. Pourtant, lorsqu'on leur présente des images à caractère douloureux ou des vidéos, on retrouve les mêmes activations que chez des sujets sains. Donc ce qui nous montre que l'empathie ne passerait pas par un phénomène de résonance automatique, mais plutôt par un mécanisme de prise de perspective de l'état d'autrui. Et donc voir la douleur d'autrui, c'est jamais très agréable, on l'a vu avec l'image juste avant de l'athlète. Et est-ce qu'elle peut changer également notre propre ressenti douloureux? Donc c'est ce qui a été fait dans l'équipe par Gonino en 2011. Et ce que l'on voit, c'est que voir la douleur d'autrui, effectivement, lorsque derrière je ressens moi-même de la douleur, je ressens cette douleur de façon plus forte. Donc on a une augmentation de la douleur suite à l'empathie. C'est ce qui a été nommé l'hyperalgésie compassionnelle. Et l'hyperalgésie compassionnelle, elle va passer par l'activation de régions de haut niveau, qui sont représentées ici en vert. Et une seule région va interagir avec le réseau de la douleur, elle va se situer au niveau du cortex pariétal postérieur, donc qui nous montre une autre zone potentielle de modulation de la douleur. Donc voici un bref listing de l'ensemble des activations qu'on a vues au cours de cette présentation, dues à des modulations naturelles, psychologiques. En guise de diapo finale, on peut faire ce petit résumé où on voit que le cortex singulaire et les régions qui sont sur son pourtour vont avoir un rôle important dans l'expérience douloureuse et dans sa modulation. Au niveau de la en bleu ici du précuneus et du cortex singulaire postérieur, cette région va intégrer tout ce qui est modulation sociale, la conscience de soi, la conscience aussi de l'état d'autrui. Elle est impliquée dans les mécanismes du default mode network, donc c'est le réseau de repos. Et elle peut, on l'a vu, par le biais des facteurs sociaux, moduler notre douleur. On aura également le cortex singulaire médian, qui va être impliqué dans l'état cognitif, dans les mécanismes attentionnels. Il est aussi activé la plupart du temps par la douleur également. Il va aussi soutenir les réponses d'alerte, de fuite, qui sont inhérentes à la douleur. Et enfin, une région ici en rouge, qu'on a identifiée comme très importante, pour déclencher les mécanismes de contrôle de la douleur, c'est la partie rostrale du cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal ventromédian, qui eux vont réellement activer les contrôles descendants. C'est une zone opioïdergique qui est activée par effet placebo. Un autre exemple, c'est lorsqu'on injecte de la naloxone, on inhibe complètement l'effet placebo. Donc, ce qui illustre encore, c'est la richesse des récepteurs opioïdergiques. Lorsqu'on fait une neurostimulation avisantagique, on active également cette région qui, derrière, dérive sur un contrôle descendant de la douleur. Donc, je remercie le docteur Roland Perron qui m'a permis de vous faire cette présentation aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe avec laquelle je travaille, et merci à vous pour votre attention. J'espère qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion pour moduler les douleurs qui sont inexplicables pour le moment. Merci.